Bienvenue sur le C2 Podcast, le podcast du C2RP Cariforef des Hauts-de-France. Le C2 Podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'un expert ou bien d'acteurs du terrain pour partager avec eux leur vision, leurs pratiques professionnelles ou encore leurs projets. Son principal objectif consiste à rapprocher les acteurs du monde de l'orientation, de la formation et de l'emploi. Cet épisode fait partie d'une série de mini-podcasts réalisés dans le cadre de Résonance, le forum de l'innovation organisé par le C2RP. Ils sont consacrés au thème de la formation numérique, dans lequel un expert vient vous confier ses convictions et son expérience.
De tout temps et partout sur Terre, les hommes et les femmes ont été, sont et demeureront des conteurs d'histoire. C'est un fait sans la moindre exception. Ces quelques mots sont empruntés à un ouvrage rédigé par Adrien Rivière. Ouvrage dans lequel il nous dit, entre autres, que c'est un moyen d'apprendre. Vous le devinez, ce nouvel épisode va traiter de la narration en formation. Laetitia Fly-Sainte-Marie, bonjour, c'est vous qui allez nous éclairer sur le sujet, mais avant cela, pouvez-vous s'il vous plaît compléter votre présentation ?
Bonjour Nicolas, merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Alors pour faire très très court, je suis ingénieure formation, ingénieure pédagogique. J'ai lancé notre agence Let's Mind depuis une dizaine d'années. On accompagne les organismes de formation, les structures de formation dans leur, on va appeler ça modernisation, transformation, en tout cas pour trouver la meilleure solution pédagogique pour apprendre. Et au-delà, je suis assez passionnée par le cinéma et j'ai une formation également de scénariste.
Pourquoi ce sujet aujourd'hui ? Et pour bien bien l'identifier, il s'intitulera peut-être Storytelling et formation, alors que j'ai parlé de narration dans mon introduction. Est-ce que il faut faire une distinction entre les deux. De quoi parlons-nous finalement ?
Tout le monde a un petit peu sa petite définition. Je pense qu'il faut juste dire que le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires qui est adapté au domaine de la formation.
Ne faisons pas la différence, on jonglera évidemment entre narration et storytelling, et puis pour en rajouter un petit peu, on a évoqué les États-Unis. La pratique, en tout cas, est identifiée entre autres sous l'appellation narrative-based learning. C'est pas une pratique récente, c'est une pratique très ancienne, c'est peut-être l'une des plus anciennes que l'on connaisse pour transmettre des connaissances. Pourquoi avons-nous l'impression que ce soit si peu utilisé, et peut-être en particulier dans la formation digitale ?
Alors, c'est très peu utilisé, en fait, dans notre domaine de formation en France, parce qu'on a toujours eu une approche de la formation continue et des apports théoriques comme quelque chose qui doit nécessiter un effort et qui doit être limite difficile, en fait, dans l'apprentissage. Néanmoins, les neurosciences cognitives dédiées à l'apprentissage et les progrès de la compréhension du fonctionnement du cerveau ces dernières années, depuis une vingtaine d'années, nous font comprendre que c'est pas tout à fait ce que l'on pensait en France, et qu'il s'agit pas, il ne s'agit pas de dire sois attentif, c'est maintenant, faut retenir, comme sois innovant pour que ça fonctionne. Et que justement, le fait de raconter des histoires, eh bien, c'est quelque chose qui peut être complètement inclus, pas forcément, je tiens à le dire, parce qu'il y a des formations, c'est pas nécessaire, mais pour beaucoup de formations, que ce soit inclus parce que ça permet de mieux se souvenir et donc d'ancrer nos apprentissages. Donc ça commence, mais ça nécessite de nouvelles compétences. Et c'est pas si évident à acquérir parce que on est dans un vrai changement de paradigme dans le domaine de la formation. Et donc pour les formateurs, pour les concepteurs, pour les ingénieurs, ça demande encore des formations et des compétences supplémentaires.
Parce qu'effectivement, ça semble relativement absent des formations, que ce soit des Digital Learning Managers, parce que c'est l'appellation que ça prend de plus en plus souvent aujourd'hui, ou des concepteurs pédagogiques multimédia pour reprendre les appellations universitaires.
Tout à fait. Néanmoins, on travaille, nous, actuellement avec le ministère sur un espèce de consortium, une association, une communauté sur les nouveaux titres qui vont sortir, dans lequel moi j'ai demandé à ce qu'il y ait du storytelling, où j'ai vraiment appuyé là-dessus. C'est absolument obligatoire parce que le fait... Alors, le storytelling, ce qu'on peut vraiment, ou la narration, c'est que c'est généralement immersif. On a eu une période quand même, il ne faut pas l'oublier, en e-learning, où on était sur de la narration, du storytelling, mais qui se voulait un peu imaginaire. On a souvent eu je suis un petit extraterrestre, je vais visiter des planètes, etc. Mais pour soi, en tant qu'apprenant, on ne trouve pas de lien avec notre vie. Donc c'est vraiment ça, s'il y a une grosse différence à faire, c'est que la narration peut être observateur, tandis que le storytelling, il est engageant, il est immersif. Et là, on a des projets sur lesquels on travaille, sur des formations pour des infirmiers et infirmières, pour devenir coordinateurs, où la formation qui était à 100% présentielle est passée 100% en ligne. Et on a raconté l'histoire de Sylvie, qui est infirmière et qui va devenir justement... qui veut devenir coordinatrice, et il lui arrive tout un tas de choses, elle doit faire les plannings, forcément ça marche pas, donc c'est le stagiaire, on est vraiment aussi, quelque part, des fois en format un peu de gamification, sans être dans un serious game, Tous les infirmiers et les infirmières sont prêtés au jeu. Ils voulaient savoir, que devient Sylvie? Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a envie de un peu comme sur Netflix, d'aller à l'épisode prochain. Et c'est quand même ça, en formation, ce qu'on doit faire en pédagogie. C'est donner envie également.
J'ai entendu parler d'une expérience auprès d'infirmières. Ça me fait repenser à une lecture récente, une thèse d'une étudiante, Annelise Marchand, qui parle, pour ajouter un petit peu de terminologie, de savoir épisodique ou encore de récit expérientiel utilisé à l'occasion de formation de pilotes de chasse. Alors, on va pas revenir sur la terminologie, mais finalement, ça se prête à absolument tous les métiers.
Alors, ça se prête à énormément de métiers. Sauf quelques-uns, on a besoin vraiment d'être formé sous format un peu tutoriel sur un savoir-faire très spécifique, un peu en micro-learning où là, il n'y a pas forcément de narration nécessaire. Néanmoins, il y a beaucoup de métiers et même en formation longue. Et là, je trouve ça extrêmement intéressant parce que en formation longue, on est en multimodalité. Donc, on peut avoir de la visio, ensuite on a du présentiel, on peut avoir du e-learning, on peut avoir du réel, de la fest, etc. Mais c'est la même histoire. Et là, on fait du lien avec les formateurs et on revient sur des principes de cohérence pédagogique. Donc, c'est ça aussi un peu la différence, c'est-à-dire que l'idée du storytelling, on a toujours utilisé le storytelling, finalement, la narration dans les formations, puisque les formateurs, on raconte tous, moi je suis formatrice depuis 25 ans, mais on parle de nos anecdotes, de notre expérience. Et quand ils se souviennent de quelque chose, c'est de ça, forcément. Donc, c'est ce qu'on a vécu parce que ça me fait écho, parce que ça m'a marqué, etc. Sauf que là, on va l'écrire. Et c'est ça qui change dans nos métiers actuellement. C'est qu'on passe de compétences un peu orales, de ce qu'on fait un peu à l'oral, qui sont conscientisées et formalisées, qui nécessitent de la technique. On doit créer un synopsis, on doit en faire un résumé, on doit créer des personnages qui ont un caractère, qui vont suivre une histoire. Mais au milieu de cette histoire, et c'est ça qui est aussi génial, enfin, que je trouve génial, c'est que ça doit être pédagogique. Donc derrière, il faut qu'il y ait des apports théoriques. Et ces apports théoriques, ils doivent être complètement en lien avec l'histoire. Ils doivent pas être décorrélés. Donc ça s'apprend et c'est vraiment un savoir-faire spécifique parce que sinon, l'un va manger l'autre. L'histoire qui mange l'apport ou l'apport, les apports théoriques et on n'a plus d'histoire.
On a pu parler de neurosciences tout à l'heure. On a parlé un petit peu d'émotions. Et c'est justement l'un des atouts qui est celui du storytelling, si j'en reste cette fois-ci à une terminologie commune.
C'est l'émotion qui fixe la connaissance, entre autres, mais l'émotion positive, tant qu'à faire. Donc, c'est nécessaire dans le storytelling parce que quand on va créer cette formation, on va parler, on va mettre nous-mêmes de l'émotion et on va projeter, en fait, les personnes, les apprenants vont pouvoir se projeter à travers une histoire dans laquelle ils sont acteurs ou observateurs, mais dans laquelle ils sont. Et donc, en fait, tous les apports vont être ancrés bien plus facilement.
Et c'est, entre autres, une réponse aux difficultés souvent pointées du doigt, qui sont celles d'engagement des apprenants en formation, que l'on soit en présentiel ou à distance.
C'est tout à fait le cas. Et nous, on le mesure, quelle que soit la modalité, qu'on soit en visio, qu'on soit en présentiel ou en e-learning. Et aussi, on leur fait faire cet exercice aussi, par rapport aux apports théoriques, de eux-mêmes raconter des histoires, se l'approprier. Parce que ça permet aussi une appropriation facilitée, soit parce que je vais retrouver dans ma mémoire ce que vous m'avez dit et que cette histoire, elle me parle, que j'ai envie de savoir ce que Sylvie, elle va devenir, si elle va réussir à être coordinatrice ou pas, si elle va réussir à gérer ses plannings et les gestions de conflits. Et ça va m'apprendre en termes de management. Mais moi aussi, du coup, quand je vais être confrontée, c'est des pistes aussi d'évaluation et des pistes de restitution qui peuvent être intéressantes du côté des apprenants.
Et si je veux commencer à raconter l'histoire de Sylvie, je fais comment ?
Alors, il faut être un peu formé aux techniques, justement, d'écriture. Ça, c'est important. Comme il faut être formé en tant que formateur à la conception pédagogique ou à l'ingénierie pédagogique. Un minimum, c'est quoi une compétence, etc. On reste toujours dans notre métier qui est de permettre à des stagiaires identifiés d'acquérir des compétences identifiées, de trouver la meilleure solution pédagogique. Et effectivement, il faut se former, il faut être capable d'écrire un synopsis, c'est-à-dire un résumé de l'histoire en deux lignes, pour avoir une vision claire de ce que l'on veut faire. Il faut être capable d'écrire des personnages, mais c'est des techniques qui s'apprennent facilement, et de faire un découpage scénique. On a un découpage qui se veut par scène. Donc ça parle souvent beaucoup plus aux formateurs, des fois, que la pure conception pédagogique, qui va être par chapitre, par module, etc. Parce que là, on va donner aussi de la consistance à ce qu'on fait.
Et donc, s'il y avait une recommandation à faire à nos auditeurs, les renvoyer vers une lecture intéressante pour se lancer, ou un blog parce qu'il y en a, ou sinon, ou encore une chaîne YouTube, peu importe.
Voilà, il y en a. Alors, bien sûr, je vais vous inviter, si vous le souhaitez, il y a les podcasts de Let's Mind sur le storytelling, hein, que vous retrouvez sur notre chaîne. Il y en a beaucoup d'autres aussi. Des ouvrages, on n'en trouve pas tant que ça. Parce que comme tu l'as dit, Nicolas, c'est en France, c'est pas encore démocratisé. On a des petits bouts à gauche, à droite. Mais si vous voulez, lisez des ouvrages sur les scénarios, je trouve. L'anatomie d'un scénario, en plus, ça va vous parler parce que vous allez retrouver des choses et vous allez même être au-dessus. C'est comment se construit un scénario. Et si demain, en plus, vous voulez faire un serious game, justement, il y a forcément du storytelling dans un jeu, ce sera plus simple. Voilà, et vous avez effectivement, alors sur LinkedIn ou sur YouTube, vous allez trouver des tonnes de blogs et d'histoires, etc., mais qui peuvent être aussi des anecdotes sans forcément un côté narratif qui soit suivi. Je vous inviterai aussi vraiment à aller écouter des podcasts d'histoire, autant n'importe l'histoire ou ce genre de choses, qui vont vous permettre d'alimenter votre pédagogie justement, mais qui ne sont pas forcément du domaine pédagogique. C'est-à-dire aller vous nourrir et vous alimenter d'autres choses pour les remettre justement dans notre univers et qu'ils ne soient pas cloisonnés uniquement à la pédagogie.
Eh bien, cet épisode touche malheureusement à son terme. Laetitia, un grand merci pour votre participation. Un grand merci également à nos auditeurs qui retrouveront cet épisode sur le site internet du C2RP et sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode.
Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode du C2 Podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou avec toute personne pour laquelle il sera intéressant et utile. Laissez-nous librement un commentaire, posez-nous vos questions sur le sujet traité par le podcast ou encore faites-nous part de vos idées pour un prochain C2 Podcast. Retrouvez tous les épisodes réalisés dans le cadre de Résonance, le forum de l'innovation, téléchargeable et accessible sur le site du C2RP. Et pour ne rien manquer de notre programmation, abonnez-vous au C2 Podcast sur vos plateformes préférées. Apple Podcasts, Deezer, Spotify, vous ne manquerez aucun épisode.